autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous embarquer, amis auditeurs, pour un voyage sidéral et sidérant vers d'autres mondes que le nôtre, bien au-delà de notre système solaire, sur les traces des milliers, des milliards d'exoplanètes qui gravitent autour d'autres astres que notre Soleil. À quoi peuvent-elles bien ressembler, ces étranges planètes extrasolaires dont les astronomes ne soupçonnaient même pas l'existence avant la découverte de Pégase en 1995? Aujourd'hui, près de 4000 exoplanètes ont été détectées. Il y en aurait des centaines de milliards dans tout l'univers, toutes plus extravagantes les unes que les autres, planètes océans, géantes gazeuses ou rocheuses, super terres tournant autour de plusieurs soleils, ou encore exolunes. Comment les détecter? Pourquoi les traquer? Qu'ont-elles à nous apprendre? Et surtout, pourraient-elles abriter la vie d'autres formes de vie extraterrestres et extrasolaires? Autant de questions ouvertes dans les laboratoires et les observatoires astronomiques du monde entier. La chasse aux exoplanètes ne fait que commencer, comme nous allons le découvrir avec nos invités, l'astrophysicien Sébastien Charnoz et David Fossé de Ciel et Espace, qui vient de publier avec le dessinateur Manchou Exoplanètes entre science et science-fiction, autour de la question à quoi pourraient bien ressembler les exoplanètes. Bienvenue. Bonjour David Fossé.
Bonjour.
Bonjour Sébastien Charnoz.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Terre pour partager cette formidable chasse aux exoplanètes. Sébastien Charnoz, vous êtes astrophysicien à l'IPG, l'Institut de physique du globe, professeur à l'Université Paris Diderot, spécialiste de la formation des planètes, des satellites et des anneaux planétaires. Vous avez notamment participé à la mission Cassini avec le regretté André Braik, découvreur des anneaux de Neptune. Vous avez d'ailleurs, Sébastien, vous-même découvert deux petites lunes de Saturne. Depuis, vous avez quitté le système solaire, si j'ose dire, pour vous intéresser aux exoplanètes. Vous êtes très impliqué dans la mission KEOPS de l'ESA. Il s'agira non seulement de détecter, mais aussi de caractériser ces exoplanètes que l'on ne cesse de découvrir, mais qui sont particulièrement difficiles à observer directement tant elles sont loin, loin de nous.
Oui, tout à fait. Effectivement, l'observation, la détection des exoplanètes, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Et bien que l'idée d'exoplanètes, alors déjà, il faudrait peut-être un petit peu définir exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour des étoiles autres que notre Soleil. Comme ces étoiles sont lointaines, les planètes qui tournent autour sont lointaines aussi. Donc l'idée que des planètes puissent exister autour d'autres étoiles, c'est une idée très ancienne. Qui remonte même à plusieurs siècles, c'est pas une idée si récente que ça, mais c'est une observation qui est extrêmement difficile parce que ces planètes sont toutes petites, les étoiles sont très lointaines, et en plus les étoiles brillent comme des puissants phares dans la galaxie alors que les planètes sont des objets très sombres. Donc, détecter quelque chose de très sombre juste à côté de quelque chose qui est très brillant comme une étoile et tout cela étant très 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 loin, tout ça c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que la première exoplanète détectée a été uniquement détectée dans les années 90, donc c'est-à-dire extrêmement récemment. Aujourd'hui, les techniques s'améliorent, donc c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui plus de 4000 exoplanètes détectées, mais ça reste toujours quelque chose qui est vraiment à la limite de nos technologies.
Alors on ne peut pas les observer directement, on peut les imaginer, raconter cette chasse aux exoplanètes. David Fossé, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Ciel et Espace, passionné par l'espace donc et par les exoplanètes. Vous venez de publier avec les superbes dessins du space artist Manchou, Exoplanètes aux éditions Belin. C'est un ouvrage de science, c'est un ouvrage de science-fiction, c'est un ouvrage d'imagination aussi.
Ah bah oui, je pense que les trois à la fois, moi je prends tout. Je pense que la science et l'imagination, elles ont vraiment fort à faire ensemble, elles sont complètement liées. Et moi ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est un peu retrouver l'élan, la passion que j'avais quand j'étais adolescent et que je m'intéressais à l'astronomie en général. Et je me suis posé la question suivante, qu'est-ce que j'aurais envie de lire comme livre si, lycéen, je voulais en savoir plus sur les exoplanètes. Et en fait, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, évidemment, l'image me marquait beaucoup. Je voulais aussi en apprendre, avoir des infos scientifiques fiable. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec Manchu, c'est-à-dire mélanger la qualité picturale des dessins de Manchu, qui est un auteur, un illustrateur de science-fiction, qui a 500 couvertures de science-fiction à son actif et qui a été reconnu de façon internationale pour son travail. Et puis aussi des informations fiables, c'est-à-dire vraiment faire un état des lieux le plus fiable et le plus récent possible de cette incroyable diversité des mondes.
Parce que c'est ça qui frappe. Alors avec les dessins de Manchu, bien évidemment, mais j'imagine que Sébastien Charnoz, vous êtes d'accord, ce qui frappe, c'est l'incroyable diversité, c'est un bestiaire incroyable. Il y a toutes sortes, tout ce qu'on peut imaginer comme planète, au fond, on a l'impression qu'elles existent quelque part.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte que quand on a découvert la première planète extrasolaire en 1995, la première planète autour d'une étoile comme le Soleil, 51 Pegasi B, on a été extrêmement surpris parce que qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert une planète qui faisait à peu près la masse de Jupiter et qui tournait en seulement 4 jours autour de son étoile. Donc, était à quelques millions de kilomètres de la surface de son Soleil. Il faut savoir que dans le système solaire, Mercure est à 60 millions de kilomètres. Et là, on avait un objet beaucoup, beaucoup plus proche, gazeux, autour d'une étoile. On n'avait pas du tout anticipé ce genre de choses. À tel point que d'abord, il a fallu un petit peu de temps pour convaincre tout le monde qu'on avait effectivement
bien une exoplanète,
découvert une exoplanète. Ouais. Et ça a vraiment surpris énormément de monde. Et il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que donc ce sont deux chercheurs suisses, Michel Mayer et Didier Queloz, qui ont découvert cet objet depuis l'Observatoire d'Haute-Provence d'ailleurs en France. Mais au même moment, il y avait une équipe américaine qui cherchait elle aussi des planètes extrasolaires avec un instrument plus gros et qui a priori aurait dû trouver 51 Pegasi B. Simplement, dans la façon qu'ils avaient de traiter les données, d'emblée ils éliminaient les objets qui tournaient très près de leurs étoiles.
Ils
n'ont pas cru parce qu'en fait, ils avaient une conception des systèmes planétaires dans la galaxie qui était plus ou moins similaire au système solaire. Donc, grosso modo, ils savaient que pour détecter une planète de la masse de Jupiter, on n'avait pas la sensibilité pour détecter des terres, c'est plus difficile. Mais ils savaient que, ils en avaient pour quelques années. Jupiter fait le tour du Soleil en 5 ans. Donc, pour voir un tour, il faut chercher au moins 5 ans. Donc, d'une certaine manière, ils avaient commencé les premiers, mais ils n'étaient pas très pressés. Ils ne s'imaginaient pas qu'on puisse trouver une planète si rapidement parce que tout simplement, dans leur conception de ce que devait être un système planétaire, 51 Peg B, qui a été découverte par les Suisses, elle ne faisait pas partie des mondes possibles.
Alors une fois qu'on avait ouvert l'esprit, compris que ça pouvait faire partie de mondes possibles, depuis 1995, on ne cesse de détecter des exoplanètes presque tous les jours. Votre maître, Sébastien Charnoz, le regretté André Braik, parlait même d'un embouteillage céleste à propos des exoplanètes. Je propose de l'écouter, justement, d'écouter cet éminent astrophysicien, aujourd'hui disparu, nous raconter avec l'enthousiasme qui le caractérisait, cette révolution, on peut le dire comme ça, astronomique et exoplanétaire, c'était ici même, sur les ondes de RFI et d'Autour de la question, en février 2011.
Jusqu'à présent, les hommes voyaient les étoiles comme des points de lumière dans le ciel, ignorant ce qu'il y avait en avoisinage, et ne pouvant pas savoir ce qu'il y a en avoisinage, puisque trouver une planète autour d'une étoile, c'est comme observer une bougie à côté d'un phare de marine. Si vous ne regardez pas longtemps, vous ne voyez pas la bougie, et si vous regardez longtemps, vous êtes ébloui par le phare de marine. Une planète n'émet pas de lumière, une planète ne fait que réfléchir la lumière de l'étoile.
Donc on voit l'étoile et on ne peut pas savoir combien de
planètes. Mais les astronomes, qui sont curieux et qui insistent, procèdent de la même manière, je dirais, qu'un animal dans la forêt. Quand vous êtes dans en Amazonie, quand vous êtes en Afrique, dans la forêt, vous ne voyez pas bien ce qui se passe, mais si vous êtes aux aguets, vous voyez une feuille qui bouge, vous voyez une odeur qui arrive, vous voyez une ombre qui passe. Et ça, si vous êtes habitué, ça vous donne des informations. Et que fait l'astronome ? Il regarde un tout petit mouvement de l'étoile, tout petit, 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 que nous n'étions pas capables d'observer jusqu'à présent, mais que nos instruments maintenant, qui ont été améliorés, sont capables de faire. Et il voit que l'étoile vibre un petit peu, bouge. Ce n'est pas qu'elle vibre en elle-même, c'est qu'elle est légèrement perturbée par une planète dans son voisinage. Sans le voir directement, nous avons détecté des planètes. La première planète a été trouvée en 1995, en France d'ailleurs, par une équipe suisse, utilisant un matériel d'optique français, parce qu'il y a une longue tradition d'optique en France depuis les siècles passés. Nous avons trouvé une planète en 1995. Au jour de vous parle, depuis hier, donc vous voyez que c'est tout nouveau, nous en sommes à la 526e. Vous m'auriez invité il y a deux jours, aujourd'hui il y en a 525. Aujourd'hui, j'ai un 626. Et dans trois jours, il y en aura peut-être un peu plus. Autrement dit, et là, il ne s'agit que des étoiles les plus proches de nous, qui sont à quelques années-lumière, celles qu'on voit pratiquement à l'œil nu. Alors ces planètes pour l'instant sont fort différentes de notre système solaire, ce qui se passe au système solaire. Il a de gros Jupiter très proches de l'étoile, donc très chaud, il y a là des objets plus gros que la Terre, c'est difficile de trouver une petite Terre. Mais nous ne désespérons pas, et nous pensons que s'il y a une autre Terre autour d'une telle étoile, nous devrions la trouver dans les années qui viennent.
André Brahic, en 2011, sur notre antenne, Sébastien Chernoz, vous avez longtemps travaillé avec André Brahic, il nous disait ça donc en novembre 2011, aujourd'hui, 4000 exoplanètes et bien plus que ça au fond.
Ah oui, c'est vrai que enfin, j'étais un petit peu ému à le fait d'écouter André, ça fait... C'est toujours en l'écoutant, les années passant, en le réécoutant, je me dis mais à quel point sa pensée était percutante et profonde, et toujours avec cette poésie qui était celle d'André.
Et son enthousiasme.
Et son enthousiasme, c'est sûr, ouais. qui est un élément très important de sa personnalité. Oui, effectivement, aujourd'hui on en est à 4000 exoplanètes, et c'est sûr que ce compte va continuer à monter, j'irais presque exponentiellement. Là, il y a le satellite TESS américain qui vient d'être lancé, qui lui va faire ce qu'on appelle un survey. Donc un survey, c'est une manière d'observer le ciel qui consiste à faire une observation systématique de presque toutes les zones du ciel, un petit peu comme un bulldozer qui avance dans le ciel pour essayer de voir tout ce qui passe sur son passage. Donc TESS va quasiment faire une image de tout le ciel, sauf l'équateur céleste, pour essayer de détecter le plus grand nombre possible d'exoplanètes, donc par la méthode des transits. Donc,
oui, parce qu'il y a plusieurs méthodes
André parlait avec beaucoup de poésie. André parlait de la méthode dite des vitesses radiales. Donc effectivement, il a parfaitement raison.
L'idée... C'est au sol, ça. C'est pour des observateurs.
Alors, les vitesses radiales nécessitent de faire ce qu'on appelle la spectroscopie de très très haute précision. Et donc là, le meilleur endroit pour le faire, c'est le sol, parce qu'on a des grands miroirs, on a une très bonne stabilité. Donc c'est plus facile à faire que depuis l'espace. Et ça, l'idée, donc la méthode des vitesses radiales, c'est que effectivement, vous ne faites pas d'image de la planète. Ce que vous faites, c'est que vous regardez comment l'étoile est très légèrement perturbée par la force de gravité de la planète. Donc l'étoile bouge un petit peu dans le ciel, et ce qu'on va détecter, c'est la vitesse de cette étoile dans le ciel. Et ça nécessite des instruments de précision. Et donc ça, c'est la méthode des vitesses radiales. Donc en fait, vous ne voyez pas la planète, simplement, vous voyez juste que l'étoile bouge. Et la manière qu'a l'étoile de bouger vous donne des informations sur la planète qui est autour.
Observation indirecte à partir du sol, et là, vous parlez de TESS.
TESS utilise une autre méthode qui en fait, c'est la méthode aujourd'hui. Lui, TESS utilise la méthode dite des transits. C'est la méthode préférée, je dirais, aujourd'hui. C'est celle qui a fait le succès de ce satellite américain qui s'appelle Kepler. Et Kepler a complètement explosé le nombre d'exoplanètes découvertes avec sa très très grande efficacité. Et donc là, l'idée, c'est complètement différente. C'est qu'au lieu de regarder la vitesse de l'étoile, vous allez regarder plutôt ce qui se passe. Vous allez essayer de détecter une éclipse. C'est-à-dire que l'idée est très simple. Si une planète passe devant l'étoile, la brillance de l'étoile devrait très légèrement diminuer du fait de la petite éclipse que provoque la planète.
Donc on cherche les éclipses. Pour imaginer, enfin penser qu'il y a effectivement une planète qui l'a provoquée.
Voilà, tout à fait. Et alors, toute la magie, c'est qu'on peut se dire, mais quand même, la chance que... Quand même, il y a très peu de chances pour qu'une planète passe exactement entre nous et son étoile, parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup de chances pour que la planète soit parfaitement alignée avec la ligne de visée. Mais même s'il n'y a qu'une chance sur 1000, il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc un millième de 1 milliard, ça fait 1 million. Donc ça fait déjà quand même 1 million d'objets potentiellement découvrables.
Donc, 1 million d'objets, et voire plus, potentiellement, voire beaucoup plus, en fait. Potentiellement voilà. Découvrables. Dans ce livre, Exoplanète, avec dessinateur Manchou, vous en décrivez des absolument étonnante. Alors, il y a bien sûr des super-terres ou des sortes de jumelles de la Terre, mais pas seulement. Il y a des chapelets de Terre aussi, des planètes trappistes qui ont été découvertes récemment. Enfin, il y a tous les genres.
Il y a un peu tous les genres. Comme je disais, la première était surprenante. Donc, ce Jupiter qui tourne en 4 jours autour de son étoile, on a découvert, par exemple, que ces géantes qui tournaient en quelques jours et donc qui étaient à quelques millions de kilomètres de la surface de leur étoile, et ben, pour certaines, elles s'évaporaient. On a, par exemple, des planètes actuellement qui s'évaporent. Des espèces de planètes comètes d'une certaine manière.
Donc, il faut arriver à les détecter avant qu'elles soient complètement évaporées.
Alors oui, alors on peut penser ça, mais on a commencé à faire des calculs. Alors certaines. Alors on imagine que alors je pense à une planète en particulier, la première qui a été découverte de cette manière, c'est d'ailleurs par une équipe française qui a découvert cette évaporation. Bon, ils ont fait un calcul rapide et ils se sont rendu compte qu'elle perdait, je crois, 10 000 tonnes d'hydrogène par seconde, ce qui peut paraître énorme, mais compte tenu de la masse gigantesque de ce genre d'objet, elle n'est pas en danger, elle survivra. En revanche, on a découvert aussi d'autres planètes, je pense en particulier à Corot 7b, qui est une planète qui a été détectée par une équipe française, enfin avec un satellite français qui s'appelle Corot, qui était le précurseur de Kepler, parce qu'avant Kepler, qui a découvert des milliers de planètes, il y a eu Corot, un satellite français qui en a découvert aussi plusieurs, notamment cette Corot 7b. Alors Corot 7b, elle est étonnante, C'est aussi un astre très proche de son étoile. Il tourne en 20 heures. Donc l'année sur Corosette B dure 20 heures, ce qui est absolument
l'année
fascinant.
L'année dure 20 heures.
L'année dure 20 heures sur Corosette B. C'est un astre
tout est possible dans l'espace,
bizarre,
oui.
Qui présente d'ailleurs sans doute toujours la même face à son étoile, ce qui signifie qu'en fait sur la face qui est éclairée, donc perpétuellement éclairée sur des milliers, des millions, des milliards d'années, il fait à peu près 2000 degrés. Il faut s'imaginer un espèce d'océan de lave, enfin, beaucoup plus chaud que la lave. Vous regardez un filament de tungstène, voilà, vous imaginez un océan qui serait un filament de tungstène, c'est à peu près l'impression qu'on peut avoir de Corosette B. Et par contre, sur sa face qui est perpétuellement obscure, là, on aurait des températures de moins de 100 degrés. Voilà, un objet privé d'atmosphère, incandescent d'un côté, glacial de l'autre.
Et fort que la science-fiction. Hein. Enfin, je ne sais pas si la science-fiction a déjà imaginé ça.
Les auteurs de science-fiction ont imaginé beaucoup de choses, mais je ne sais pas s'ils ont imaginé ce genre d'objet. Et Corosette B, l'une des théories pour expliquer la présence de cet objet, eh ben, ce serait peut-être le résidu d'un de ces Jupiter chauds dont je parlais, géante gazeuse, qui se serait totalement évaporé et aurait laissé une petite graine comme Corosette B. Donc vous voyez qu'on peut quand même imaginer des tas de choses très, très amusantes.
Autour de la question à quoi ressemblent ou ressembleraient les exoplanètes, je vous propose de suivre Les Voyageurs de l'espace. C'est le titre d'un très joli album composé par Claudia Solal, Didier Petit et Philippe Foch, coédité par l'Observatoire de l'espace du CNES. Le morceau s'appelle XOXO.
La nuit, quand je ne dors pas, je rêve accoudé à ma fenêtre. À quelle de ces étoiles là-bas éclaire la bonne exoplanète?
Les voyageurs de l'espace sur RFI. Autour de la question à quoi ressemblent les exoplanètes? Sont-elles bleues? Sont-elles vertes? Ces planètes extrasolaires, toutes plus extravagantes les unes que les autres, que les astrophysiciens découvrent en grand nombre aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de l'astrophysicien Sébastien Charnoz et du rédacteur en chef de Ciel et Espace, David Fossé, qui vient de publier avec le dessinateur Manchou un magnifique album qui répond en partie à notre question, puisque Manchou, artiste spatial, a réussi à imaginer ces exoplanètes, à les dessiner au plus près de la réalité décrite par les scientifiques. Écoutez ce qu'en dit Manchou lui-même, joint au téléphone par Charlie Dupiau.
J'ai toujours été passionné d'astronomie et d'astronautique. Et en fait, ce qui me passionne là-dedans, c'est que c'est le côté imaginaire. Quoi. On a très peu de données, donc on peut un petit peu délirer par moment. Quoi.
Et alors, par exemple, pour quelle exoplanète là du livre, vous avez eu le sentiment de vraiment pouvoir délirer, comme vous dites?
Alors, il y en a une qui s'appelle Proxima B. On a imaginé à la surface de la planète, en fait, qui est une banquise quasiment totale tout autour de la planète, on a imaginé des formes de vie qui peuvent être implantées à la surface, sur la glace. C'est une sorte de grosse bestiole, un peu éponge, avec une coloration verte, un mi-chemin entre l'araignée et l'éponge gigantesque. David a imaginé qu'elle pouvait absorber le rayonnement dur de l'étoile et le transformer en photoluminescence. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez plausible, en fait. Donc après, il suffisait de représenter ça dans les verres. Il y en a quelques-unes qui ont été très dures à imaginer parce que sur Terre, on est complètement formaté par la lumière de notre Soleil. Enfin, le Soleil est une étoile jaune et tout est calé là-dessus. Moi, mes couleurs, mes tubes de couleurs sont calés sur cette température de lumière. Quand je dessine, je fais mes mélanges avec cette lumière-là. Et quand il s'agit d'imaginer l'apparence des objets sous un autre éclairage, ça devient très très compliqué. Ça, c'est vraiment une des principales difficultés pour la réalisation du bouquin.
Et c'est vraiment quelque chose que vous avez dû, pour le coup, imaginer.
Oui, et c'est pas facile. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on ne sera pas démenti avant un certain temps au niveau de notre imaginaire sur ces images. Parce qu'on n'est pas prêt d'y aller, quoi.
Bon, personne ne vous démentira, hein, David Fossé, sur ces images totalement incroyables d'exoplanètes dessinées par Manchu, immense dessinateur de science-fiction et d'astronomie.
Eh bien, écoutez, pour les vues de surface, en tout cas, j'espère pas de sitôt. Après, c'est sûr qu'il faut savoir, quand on fait un livre sur les exoplanètes, il n'y en a pas beaucoup qui font une synthèse de nos connaissances, tout simplement parce que ça va tellement vite qu'on prend le risque à chaque fois d'être rapidement obsolète. Donc, Proxima B, j'espère qu'on en saura plus dans les années qui viennent et que dans 5 ans, ben on se rendra compte que ça ressemble pas à ça. Et si on se rend compte que ça ressemble vraiment à ça, je serai encore plus heureux, évidemment. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est un exercice d'imagination, encore une fois, basé sur nos connaissances actuelles. Parce que je voudrais pas laisser penser qu'on a vraiment totalement imaginé. C'est pas du tout le but.
C'est pas que de la science-fiction, du tout.
C'est au contraire, qu'est-ce qu'on peut tirer comme image d'artiste à partir de nos connaissances scientifiques. C'est vraiment ça le propos.
Tout est imaginable, envisageable, Sébastien Charnoz. La nature, avec les mêmes choses, elle peut faire des choses très très étranges et extravagantes.
Les grandes leçons de la science, c'est qu'en général, et particulièrement la nature a infiniment plus d'imagination que nous tous. On a, je pense que l'univers que nous a révélé les exoplanètes était, personne ne l'avait anticipé avant, et la diversité d'exoplanètes découvertes dépasse de loin notre imagination. Et donc j'ose pas imaginer si un jour on arrive à faire l'image d'une d'entre elles, ce qu'on pourra trouver. Mais pour en revenir justement sur l'exercice d'imagination, c'est, bien entendu, il y a une grande part d'exercice d'imagination, parce que au fond, finalement, sur les exoplanètes, on a que très peu d'informations. À l'heure actuelle, les deux informations qu'on a, ça fera rire nos collègues, je sais pas, physiciens ou biologistes, qui regorgent d'informations la plupart du temps sur les systèmes qu'ils étudient. On n'a que deux chiffres pour imaginer une exoplanète. Enfin, on a trois chiffres la plupart du temps. On a la distance à l'étoile, ce qui vous donne à peu près une idée de la température. On a la taille et la masse. Et la taille et la masse, ça vous donne une idée extrêmement grossière. Est-ce que c'est plutôt du gaz, du roche, de la roche, ou quelque chose un petit peu comme de l'eau. Donc rien qu'avec ça, il faut essayer d'imaginer un petit peu ce que c'est. Mais on commence à aller plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a quand même une recherche extrêmement dynamique sur le sujet, avec des technologies
partout,
de pointe
dans
le monde entier, en France. Alors la France est très active, la Suisse est très active, l'Allemagne est très active, les États-Unis aussi. Bon, en général, c'est des grandes nations technologiques. Le Japon aussi est très actif sur la question. Aujourd'hui, par exemple, on arrive à faire des choses qu'on n'avait même pas imaginées il y a 10 ans. Aujourd'hui, on commence à faire de la spectroscopie de l'atmosphère des exoplanètes. C'est-à-dire qu'on arrive à détecter quelques photons uniquement émis par ces exoplanètes et on essaie de deviner si ces photons ont été émis, par exemple, par de la vapeur d'eau ou par de la vapeur de méthane ou par de la vapeur d'autres composés qui peuvent flotter dans l'atmosphère des exoplanètes. Et on a détecté l'eau sur certaines exoplanètes.
Est-ce que l'eau, on va y venir, puisque quand même la grande question derrière, c'est... Est-ce que parmi ces exoplanètes, une d'entre elles pourrait abriter la vie, des formes de vie, certaines sont-elles habitables ? L'eau, c'est pas la signature de la vie, c'est la signature qu'il y a de l'eau sur une exoplanète.
Alors, le problème, c'est que quelle est la signature de la vie ? Ça, c'est une grande question de la science moderne, et c'est une question qui, à l'heure actuelle, n'a pas de réponse. Aujourd'hui, il y a un accord général pour dire que la vie a besoin d'eau. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas vraiment de forme de vie qui s'en passe. Après, la question, c'est est-ce que l'eau, c'est la signature de la vie ? C'est pas du tout certain. On pense aujourd'hui, en fait, que la signature de la vie est une signature qui serait plus polymorphe, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faudrait une combinaison de signatures qui pourrait peut-être attester que c'est de la vie. Par exemple, si vous prenez les missions Viking, qui sont allées sur Mars à la fin des années 70, où il y a eu des expériences pour détecter de la vie sur Mars, la grande conclusion des missions Viking, c'était qu'il y avait bien de la vie sur Mars. C'est-à-dire les trois expériences qui, toutes les trois, ont donné un résultat positif. Ensuite, ces expériences ont été réinterprétées développé, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien imaginer des processus non biologiques qui donnent une signature, une réponse positive aux expériences.
D'où l'intérêt d'étudier, de réétudier, voilà. Et finalement d'être un peu prêt à tout, j'ai l'impression. Là, on parle de science, presque de science-fiction. Je pose une nouvelle question soulevée par un autre astrophysicien, précisément grand amateur de science-fiction, Roland Lehoucq, qui était récemment notre invité. On l'écoute.
La question qui intéresse tout le monde, c'est de savoir quelle tête elles ont, ces exoplanètes. Et David Fossé, avec Manchu, ils ont fait des dessins, des représentations de ces exoplanètes. Alors, est-ce qu'on peut espérer avoir un jour des authentiques photos de la surface de ces exoplanètes ?
Votre réponse, Sébastien Charnoz ?
Alors, je pense que c'est pas impossible qu'un jour, on ait... Alors, j'ose pas dire des photos, parce que je pense que mes collègues astrophysiciens seraient pas tout à fait d'accord. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle,
oui, quand
on dit qu'on fait de l'imagerie directe d'exoplanètes, c'est-à-dire qu'on a exactement, on a un pixel qui s'allume dans la caméra.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est capable de calculer, de recevoir la lumière qui est émise globalement par l'exoplanète, mais on n'est pas capable de distinguer deux points différents à sa surface. C'est-à-dire que c'est comme si, vous imaginez toute la Terre en un seul point. Voilà. Et puis, alors, par contre, si la Terre brille fort, vous aurez un point qui brille fort. Et si la Terre est très sombre, vous aurez un point qui brille sombre faible.
Mais ce pixel, il vous apprend quand même énormément de choses.
Il vous apprend beaucoup de choses. Par exemple, imaginez que je fasse une image de la Terre. Vous savez que la Terre est passée par plusieurs phases où il y a des moments où la Terre était recouverte de glace. Une Terre recouverte de glace, elle réfléchit très fortement la lumière. Et bien, si vous avez une exoplanète qui réfléchit très fortement la lumière, vous aurez tendance à dire peut-être qu'elle est soit recouverte de nuages, soit recouverte d'une couche de glace.
Recouverte de nuages. Les exoplanètes recouvertes de nuages, c'est possible.
Ah oui, alors toutes les planètes du système solaire qui ont une atmosphère, on leur connaît des nuages. Donc, ce n'est pas quelque chose de très étonnant. Et il y a certaines exoplanètes où la signature spectroscopique de l'atmosphère qu'on a obtenue permettrait, dans certains cas, de dire qu'il y a peut-être des nuages dans l'atmosphère de certaines d'entre elles. Mais attention, on parle de systèmes qui sont très différents des planètes de nos systèmes solaires. Prenez par exemple des planètes telles qu'ont été mentionnées précédemment, des planètes qui sont très très chaudes, très proches de leur étoile. Par exemple, si vous prenez des planètes terrestres à 2000 degrés, très proches de leur étoile, elles ont une énorme atmosphère de vapeur de silicate qui ressemble un petit peu aux exhalaisons des volcans. Et on peut très bien imaginer, par exemple, des nuages de roches fondues qui flottent dans l'atmosphère, c'est parfaitement envisageable, dans des atmosphères très très chaudes de planètes magmatiques, par exemple.
Voilà. Vous avez des indications pareilles à Manchu, David Fossé
sur Corot 7b, on a imaginé des pluies de métaux, effectivement. On a effectivement des indications, là c'est de la physique, pas des indications observationnelles, mais les modèles montrent qu'effectivement, au-delà d'une certaine température, on a en suspension, non pas du méthane, de la vapeur d'eau, comme sur les planètes qu'on connaît, mais des cristaux de zirconium, ce genre de choses. Il pourrait y avoir des neiges de plomb. Enfin, c'est tout à fait...
Des neiges de plomb.
C'est tout à fait envisageable, ce genre de choses. Et bon, ça ouvre évidemment des perspectives fascinantes. Et je voudrais quand même rebondir et revenir sur la question de Roland Lehoucq, parce que je vais endosser le rôle de l'optimiste, sur la possibilité d'avoir des images. D'abord, il a posé comme question, est-ce qu'un jour on arrivera ? Alors, un jour, oui, je suis certain.
Oui,
c'est de notre vivant ou pas, ça c'est encore autre chose.
De notre vivant, je ne sais pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, là, il faut un peu se pencher sur l'histoire des sciences. Récemment, on a une sonde qui est passée à proximité de Pluton, qui a fait des photos extraordinaires de Pluton, que tout le monde a vues, avec un beau cœur, enfin, ça a fait la une de tous les médias. Pluton a été découvert en 1930, et en 1930, c'était un point dans le ciel. Hein, et pendant très très longtemps, Pluton n'était qu'un point dans le ciel. Donc, en 80 ans, on a fait des progrès gigantesques. Alors ça reste dans le système solaire, mais quand même, on a fait ce progrès, on a survolé Pluton, et aujourd'hui on est au-delà de Pluton, il faut savoir ça. Donc l'idée qu'on puisse faire une image d'exoplanète, d'abord il y a des gens sur Terre qui travaillent, qui essaient de trouver des moyens de faire ça. Alors il y a des projets très futuristes, je vais citer juste pour le plaisir Antoine Labéry, qui travaille un peu tout seul dans une vallée des Alpes à développer un système un peu original pour photographier ces planètes extrasolaires.
Oui, qui développe tout seul un système pour les photographier.
Exactement, qui l'appelle un hyper-télescope. Alors c'est un peu en dehors des sentiers battus, je ne sais pas s'il y a une chance de succès, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent très sérieusement à ça. Et puis, si on veut rester un peu dans la science-fiction, récemment, il y a une étude de faisabilité qui est menée, qui s'appelle le Breakthrough Starshot, qui a été lancée il y a deux ans, et ce qui est financé à hauteur de 100 millions de dollars jusqu'en 2021. Et l'idée, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui ou dans quelques années d'envoyer des voiles solaires, donc c'est des espèces d'objets propulsés par la lumière, Est-ce qu'on est capable d'envoyer des voiles solaires propulsées par un faisceau laser jusqu'à Proxima du Centaure? Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de bruit parce que Stephen Hawking s'est un peu mis dans le projet. Enfin bref, il y a un gros financement, 100 millions de dollars. C'est juste une étude de faisabilité, mais là encore, simplement pour dire qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à des moyens techniques d'envoyer, alors pas nous, pas des hommes, mais d'envoyer nos sondes. Là, en l'occurrence, ce sont des sondes de quelques grammes, donc il faut faire des progrès encore dans la miniaturisation de nos instruments. Mais voilà, donc, et cette étude de faisabilité conduit à la conclusion qu'effectivement c'est possible, etc., on peut imaginer que d'ici la fin du siècle, avoir envoyé des sondes autour de Proxima du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière. Et si ça fonctionne, le projet imagine qu'on puisse faire ce trajet à 20% de la vitesse de la lumière, donc en une vingtaine d'années. Donc, je ne dirais pas, peut-être que moi c'est un peu trop tard, mais mes enfants, mes petits-enfants, peut-être verront le sol de Proxima.
Verront peut-être le sol de Proxima, verront peut-être la grande question qui se cache quand même derrière toute cette quête d'exoplanètes, c'est s'il y a une forme de vie ou une autre sur les exoplanètes, pourrait-elle héberger la vie? Question majeure que nous allons aborder juste après un petit saut musical dans le temps et dans l'espace, Out of Space avec The Prodigy sur RFI. Space to find another race, the Prodigy sur RFI, autour de la question des exoplanètes, en compagnie de l'astrophysicien Sébastien Charnoz, de l'Institut de physique du globe et de David Fossé, de Ciel et Espace, qui vient de publier un superbe album Exoplanètes avec le dessinateur Manchu. Tout de suite, une nouvelle question, plus exactement la grande question sous-jacente à cette quête d'exoplanètes. C'est le physicien philosophe Étienne Klein qui vous la pose.
Bonjour David, bonjour Sébastien. J'ai une question à propos de la vie extraterrestre. Est-ce que vous pensez que plus on découvre d'exoplanètes et plus la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs augmente, corrélativement? Ou est-ce que vous pensez que la Terre est une planète très spéciale et qui est la seule à avoir pu produire une vie à peu près évoluée comme celle que nous connaissons?
Qui commence pour répondre à Étienne Klein? David Fossé.
Alors, je me jette à l'eau. C'est une réponse, c'est une question qui est vraiment difficile.
Bah oui.
Moi, je pense que oui. Je dirais que plus on découvre de planètes extrasolaires et plus on s'approche de la détection d'une vie extraterrestre.
Forme de vie, on ne sait pas laquelle. Hein.
Oui, bien sûr, évidemment, je ne me prononce pas sur la forme de vie. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit capable à distance de détecter une signature, et d'ailleurs des signatures, hein, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, la question de la vie, c'est pas simplement une signature, c'est un faisceau d'indices à distance. Donc est-ce que c'est possible? Moi je pense que oui. En ça, je suis pas tellement comment dire, original. Autant pendant des années, la question de la recherche de la vie dans l'univers, ça n'a pas été considéré comme une vie scientifique, ça a été totalement évacué du champ scientifique.
Aujourd'hui, avec cette découverte qui ne cesse de nous interpeller des exoplanètes, c'est devenu une question scientifique. scientifique, bah, clairement, la recherche de la vie extraterrestre.
Oui, bien sûr, si on a voulu l'évacuer, parce qu'après tout, d'abord, on n'avait pas d'indice particulier. Pendant longtemps, il faut savoir quand même que pendant longtemps, chez les philosophes et les savants de la Renaissance et par la suite, c'était une question, comment dire, tout à fait naturelle. Hein, les gens se la posaient.
Regardant le ciel, on peut se la poser. Hein.
Kepler, Herschel se la posaient, et surtout donner une réponse positive. En fait, pour eux, il était absolument impossible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. Je crois qu'Herschel, un grand astronome au début du 19e, il disait il faut avoir tiré bien peu de fruits de l'étude de l'astronomie pour imaginer que nous soyons seuls dans l'univers. Donc c'était vraiment une réponse quand même assez claire. Et pour autant, il y a eu un basculement au 19e siècle, et le symbole de tout ça, c'est Camille Flammarion, grand vulgarisateur qui était un astronome à l'Observatoire de Paris. Il a été chassé pour avoir défendu cette idée de la pluralité des mondes. Et je pense qu'on peut dater à peu près de cette période, donc le milieu du 19e siècle, cette période où finalement cette question a été évacuée. On peut le comprendre, les physiciens avaient beaucoup de choses très intéressantes.
Pas y répondre, de toute façon.
D'abord, voilà, on n'avait pas de factuellement rien à se mettre sous la dent. Et puis parallèlement, la physique avançait très bien avec la thermodynamique, l'électricité, et puis plus tard Einstein, la mécanique quantique. Enfin, il y a des tas de choses qui ont fait que on n'avait pas vraiment besoin de se poser cette question.
Mais aujourd'hui, cette question de la vie ailleurs dans l'univers, elle nous revient
très 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 fort. Et aujourd'hui, si vous interrogez un astrophysicien qui travaille sur ces sujets, bon, on verra ce que Sébastien dit. Peut-être que je m'avance. Mais en tout cas, pour donner un ordre d'idée, il y a quelques mois, il y avait une conférence sur l'exobiologie, cette discipline qui s'intéresse à la vie ailleurs dans l'univers, qui rassemblait des astrophysiciens spécialistes d'observation, des planétologues, des gens qui sont donc spécialistes des planètes elles-mêmes, des exobiologistes purs et durs, donc des gens qui s'intéressent à la chimie dans l'univers. Il y avait une question qui leur a été posée, c'était: pensez-vous que nous découvrirons un indice de vie ailleurs avant 2040, donc c'était quand même assez short en temps, si j'ose dire. Et en fait, 62% des scientifiques présents à cette conférence ont répondu oui. Ça veut bien dire que quand même, dans la communauté scientifique, il y a eu un basculement, et on considère aujourd'hui que non seulement c'est une question scientifique, mais en plus, moi j'étais vraiment en fait étonné par le résultat.
La plupart pensent que...
Oui, avant 2040. Ce qui est quand même 2040, c'est demain à l'échelle des sciences.
Sébastien Charnoz, hein, vous qui traquez les exoplanètes, votre opinion à vous, plus on trouve d'exoplanètes, plus il y a de chance dans cet énorme univers qu'on trouve de la vie.
Étienne Klein est quelqu'un de bien entendu, est un chercheur très subtil, et oui. Je trouve que la question est quand même bizarrement formulée, parce que la question c'est: est-ce que vous pensez que plus on observe des exoplanètes, plus la chance qu'il y ait de la vie dans l'univers augmente? Je pense que alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais la chance qu'il y ait de la vie dans l'univers, elle est ce qu'elle est. Okay. On ne sait pas si elle est grande ou faible. Il y a beaucoup de débats sur la question. J'aurais plutôt tendance personnellement à penser qu'elle est relativement grande. Ensuite, après, plus on découvre d'exoplanètes, plus notre chance de détecter de la vie est grande. C'est pas plus la présence de vie dans l'univers est probable ou non. Enfin, je ne sais pas s'il y a une subtilité dans
ces questions. Oui, il y a deux questions. Il y a une probabilité de vie ailleurs dans l'univers.
Qu'il y ait de la vie dans l'univers, je pense, est indépendant du fait qu'on essaie de la détecter. Voilà.
Mais c'est encore plus, ce serait peut-être encore plus difficile pour nous de la détecter. Peut-être que ça devient moins difficile.
Plus il y a de vie dans l'univers, plus c'est facile à détecter. Alors, effectivement.
Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche justement
En fait, en réalité, bon, le problème, c'est que, bien entendu, on sent tous que c'est une question fondamentale, c'est une question qui agite la pensée humaine depuis l'aube des temps, il n'y a aucun doute sur cette question. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche exactement. On ne pense pas que ce soit aussi simple qu'un signal qui nous dise « Bonjour les amis, on est là, on est vivant, welcome,
et en plus on est gentil.
Et en plus on est gentil, voilà. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors en fait, on essaie de raisonner par analogie, on essaie de voir ce qu'on connaît de la vie sur Terre. Le problème, c'est qu'on ne connaît que la vie sur Terre. Et il n'est pas du tout certain que ce soit les seules formes vivantes possible. Il y a beaucoup de théories qui ont été développées et qui sont un peu à la jonction entre la philosophie et la biologie, entre qu'est-ce que c'est qu'une forme de vie. Il serait tout à fait envisageable qu'il y ait des formes de vie très exotiques qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît.
Sur ces exoplanètes qui sont tellement exotiques également.
Alors là, justement, si on raisonne par analogie, on pense, disons, que comme on ne sait pas comment apparaît la vie, un des grands mystères de la science qui n'est toujours pas résolu, c'est le passage de l'inerte au vivant. Ça, on n'en a aucune idée. Malgré toutes les expériences, on n'a jamais produit dans un laboratoire quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la plus primitive des bactéries. On est bien loin de créer des choses qui ressemblent à une cellule. Voilà. Donc on ne sait pas passer l'inerte au vivant. Donc on essaie de raisonner par analogie. Ce qui nous semble important pour qu'il y ait de la vie, c'est déjà qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait un environnement instable, qu'il y ait un environnement stable, qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait un petit peu d'énergie. Alors l'énergie, on y pense Les étoiles, c'est une bonne source d'énergie. Il y a autre chose qui serait important dans le système solaire, mais ce sera un autre débat, ce serait ce qu'on appelle les effets de marée, ce qui ferait qu'il pourrait y avoir peut-être de la vie sur les satellites des planètes.
Il faudrait une marée, des effets de marée.
Alors, les effets de marée, c'est un mécanisme par lequel une planète ou une étoile peut transmettre de l'énergie par la déformation, et ce qui pourrait rendre habitable, par exemple, des océans souterrains dans les satellites des planètes géantes. Mais là, on est dans un autre domaine de l'astrophysique.
Vous nous entraînez bien loin, voilà. Oui.
Mais par exemple, certaines personnes pensent que les lunes des planètes géantes pourraient abriter la vie par ces effets. Mais en tout cas, pour les exoplanètes, les étoiles sont une bonne source d'énergie. Il faut un environnement stable. Donc, quoi de mieux qu'une planète pour un environnement stable? Alors, attention, il faut une planète stable. Et ça, c'est subtil. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les planètes n'ont pas des durées de vie infinies. Une des grandes questions qu'on se pose dans la découverte d'exoplanètes, on découvre des systèmes d'exoplanètes. Mmh. Par exemple, le système TRAPPIST qui contient cette planète.
Qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps.
Qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps parce qu'on pense qu'elles sont relativement habitables. Donc, pour être habitable, on pense qu'il faut qu'une température relativement modérée, typiquement entre 0 et 100 degrés, voilà, donc 40, 50 degrés, 30 degrés, on pense que ça devrait faire une planète habitable, c'est-à-dire une planète qui pourrait abriter de l'eau liquide, voilà. Mais alors, on sait que, par exemple, dans certains systèmes planétaires, il y a des grosses planètes telles que des Jupiters chauds, on sait que ces grosses planètes géantes ont tendance à éjecter les petites planètes autour. Donc, on ne pense que la vie ne peut se développer que sur des planètes qui vont survivre relativement longtemps autour de leur étoile sans se faire éjecter. Voilà. Donc il y a toute une activité aussi scientifique qui consiste à essayer de calculer la durée de vie dynamique de ces planètes. Et on pense que si une planète est éjectée, eh bien là, normalement elle va se retrouver dans le vide intersidéral, si je puis dire, et toute forme de vie devrait disparaître assez rapidement. Voilà.
Donc c'est pas gagné, il faut un bon contexte. Trouver avant 2040.
Donc on cherche des planètes habitables, mais habitable ne veut pas dire habiter. Et c'est là toute la question. Voilà.
Toute la question autour de la question de ces exoplanètes, avec pas mal de bouteilles musicales aussi jetées à la mer ou plutôt dans l'espace, à destination de ces planètes extraterrestres. Parmi les derniers en date, le message musical envoyé par le festival Sonar de Barcelone en collaboration avec METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, à destination de l'exoplanète de la super-Terre GJ273b, une super-Terre en orbite dans la constellation du Petit Chien, je vais y arriver, avec notamment les compositions que l'on écoute en ce moment de LCD Sound System. The life in your eyes, but it eases with each passing frame. Yeah, your head like a block, stuffed with unwritten letters to some faraway friends. Oh, you'd write on your hand to remember if someone would just. Voices LCD Sound System sur RFI. Arrivée prévue de ce message musical du festival Sonar sur l'exoplanète GJ273BE en 2030. C'est pas mal tout de même. Drôle de nom, hein, ces planètes, ces exoplanètes ont des noms un peu bizarres, David Fossé.
Bah oui, c'est parce qu'elles ont tout simplement le nom de leur étoile. Et les étoiles ont des noms bizarres. En fait, le petit B à coller aux matricules absolument incompréhensible, ça signifie simplement que c'est la première planète découverte autour d'une étoile. Donc quand vous dites par exemple 51 Peg B, et ben c'est qu'il y a une planète qui s'appelle B autour de 51 Peg. Si on en découvrait une autre, on l'appellerait 51 Peg C.
Espérons qu'on donnera peut-être un nom un peu plus accessible à nos oreilles autour de la question à quoi ressemblent ou ressembleraient les exoplanètes. Nouvelle question pour vous deux, Sébastien Charnoz et David Fossé, soulevée par Mathieu Novak. Question malicieuse, Mathieu Novak du journal Science et Avenir.
Une fois qu'on aura trouvé l'exoplanète où c'est sûr on peut habiter, comment va-t-on vivre le fait qu'on n'a aucun moyen d'y aller dans un temps raisonnable?
Question poil à gratter, insolente question, Sébastien Charnoz.
Moi, personnellement, je le vis très bien.
Parce que... qu'on puisse pas y aller, même si on découvre une exoplanète habitable.
C'est-à-dire que, effectivement, dès qu'on trouve quelque chose de beau ou d'intéressant, on voudrait marcher dessus.
Parce Puis on dit à chaque fois, c'est une nouvelle Terre, c'est
voilà,
une
non, mais,
Terre.
Mais je vous dirais que la question, dans un premier temps, c'est pas d'y aller. Déjà, la question, dans un premier temps, c'est de l'étudier. Et déjà, si on la découvre, on l'étudie avec des télescopes, avec des radiotélescopes, avec toutes les nouvelles techniques qu'on a aujourd'hui, on peut en apprendre beaucoup et on apprend beaucoup sur une planète qui ressemble à la Terre, ça va nous apprendre aussi beaucoup sur notre propre Terre, parce que étudier les différences et les similarités, justement, un des grands mystères qu'on a aujourd'hui sur le système solaire, parce que nos systèmes solaires...
Notre système
solaire a encore beaucoup de mystères, c'est... On remarque qu'il est extrêmement différent des exoplanètes. Donc si un jour on retrouve quelque chose qui ressemble un petit peu à notre système solaire, ça va nous permettre d'étudier cette question si fondamentale. Pourquoi est-ce que notre système solaire semble si différent de toutes ces exoplanètes qu'on découvre? Et ça, c'est un grand mystère. Et je pense qu'on peut faire des avancées gigantesques sur cette question sans obligatoirement débarquer pied en cap dessus avec armes et propergoles prêts à exploser. Voilà.
Il faut savoir, si je peux me permettre, que quand on, plus on découvre de planètes extrasolaires et plus on comprend finalement... quelle est la variété incroyable des planètes extrasolaires. Il y a des gens qui considèrent que, par exemple, la Terre, c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire apparaître la vie. On a toujours tendance à penser qu'on cherche évidemment un double de la vie, parce que nous, on y est, on trouve ça très bien, et on pense que c'est le nec plus ultra de ce qui se fait dans l'univers.
Il faudrait peut-être chercher d'autres possibilités.
En tout cas, c'est en découvrant l'incroyable panel des possibilités qu'on pourra effectivement mieux se situer nous-mêmes. Ça, c'est très clair. Et donc, découvrir une autre planète habitable, évidemment, je pense qu'à mon avis, toute une communauté scientifique se mettra à travailler sur cette planète en particulier. À mon avis, on pourra peut-être même inventer une nouvelle science qui portera le nom de cet objet-là, parce que on a envie de savoir exactement, elle est habitable, mais alors est-ce qu'elle est plus habitable que nous? D'abord, est-ce qu'elle est habitée? Parce qu'il a posé la question, Mathieu Novak, de planète habitable, mais alors une planète habitable qui ne serait pas habitée, qu'est-ce que ça signifie?
Et habitée par qui? Est-ce qu'il faut leur envoyer tant de messages que ça à ces extraterrestres-là? En même temps, cette quête d'exoplanètes, on comprend bien, elle répondrait et elle répond déjà, elle ouvre en tout cas un champ de questions considérable, un champ de recherche considérable. Mais comment vous faites, Sébastien Charnoz, pour arriver à étudier, à décrypter toutes les données générées par ces découvertes incessantes, multiples, d'exoplanètes, avec toutes les missions qui vont être envoyées?
Ça, c'est un point très important. Il faut bien savoir que dans ces grandes missions spatiales, genre Kepler, TESS, Corot, le satellite
Kéops,
qui va arriver bien entendu, le satellite lui-même, en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vous dirais qu'en fait, le gros de la mission n'est pas dans l'espace, mais en fait, en réalité, le gros de la mission, il est avec les équipes au sol qui étudient les données. Et aujourd'hui, la masse de données, vous voyez qu'en fait, c'est une étude statistique, les exoplanètes. Pour trouver une exoplanète, on est obligé d'observer des milliers d'étoiles, parce que la probabilité qu'une planète qu'on découvre soit très faible. Donc on est obligé de mettre au point des méthodes statistiques hyper avancées qui s'inspirent énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui le data mining, la fouille de données, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones type deep learning qui s'inspirent de toutes ces techniques
pour arriver à vous mâcher un peu le travail avant.
Voilà, de fouiller dans ces milliards de kilooctets de données et ensuite qui nous ressortent, nous autres humains, que on va dire les candidats les plus intéressants.
Mais quelles exoplanètes étudier plus que d'autres?
Quelles sont les étoiles qui sont les plus susceptibles des exoplanètes, mais il y a peut-être encore des milliers d'exoplanètes qu'on n'a pas découvert dans les données.
David Fossé, pour conclure.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré toute l'énergie qu'on met dans ces logiciels de traitement de données, il faut savoir que certaines des planètes extrasolaires qu'on a découvertes ont été découvertes par la science participative.
Par des astronomes amateurs,
et pas que seulement. C'est-à-dire que vous et moi, en fait, pouvons participer à cette recherche de planètes extrasolaires. Il faut savoir que dans les signaux que détectent les satellites, il y en a certains qui sont ambigus, et pour lever l'ambiguïté, finalement, on a besoin de regards d'êtres humains. C'est assez intéressant, et PH1B, dont je parle dans le livre, qui est une planète avec 4 soleils, elle a été découverte par cette méthode, par de la science participative.
Avis à nos auditeurs, astronomes amateurs, s'ils détectent une planète avec 4 soleils, ils nous font signe, bien sûr.
Colexus ont même proposé à des jeux vidéo, à des joueurs de jeux vidéo, de participer à cette recherche participative.
Merci Sébastien Charnoz, vous revenez quand vous voulez, parce qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question. Merci d'être venu partager vos recherches et vos interrogations. Exoplanète, c'est le titre de votre ouvrage, David Fossé, avec les formidables dessins de Manchu, qui vient de paraître chez Belin. Vous serez d'ailleurs en dédicace vendredi prochain après-midi à la Maison de l'Astronomie à Paris, où sont exposées les peintures originales de Manchu. Merci à tous les deux, merci à Apolline Vernon-Raison de l'autre côté de la vitre et Caroline Fillette en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations à partager ensemble au son d'Étienne de Crécy qui sera lui en concert spécial électro à la Cité de l'Espace à Toulouse lundi 28 mai prochain. Et sur RFI, le prochain journal, c'est dans une minute.